La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau depuis le studio Europe 1 de Roland-Garros. Europe 1, radio officielle du tournoi. La France bouge. L'émission des entreprises, des associations, des collectivités qui vont bien. Ici, c'est simple, on trouve des solutions, des innovations et en plus, elles sont françaises, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. C'est la marque qui a habillé le dernier vainqueur de Roland-Garros. C'est celle aussi que portait le dernier français en lice cette année dans le tournoi. Bon, certes, c'est allé assez vite, mais quand même. C'est donc le Coq Sportif. Après des années difficiles, la marque de streetwear est plus que jamais de retour. Son patron est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, ces marques françaises qui habillent les sportifs et parmi elles, une petite nouvelle très innovante. So Ride Wear qui propose des vêtements en fibre de bois, oui, de bois, 100% made in France. Et sa fondatrice sera également parmi nous d'ici quelques minutes.
Bah tiens, il y a justement 38 ans et 2 jours, il se passait un truc assez fou sur ce central de Roland-Garros. Un Français, Yannick Noah, créait l'exploit. Et on va revivre ensemble ce jour de légende grâce à Dora Nana de l'équipe de La France Bouge qui s'est plongée dans les magnifiques archives d'Europe.
Et puis comme chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient défendre son projet. Aujourd'hui, le pitch du jour sélectionné avec la CCI, Air Pur, ils ont créé des masques destinés aux sportifs. Le pitch va-t-il vous convaincre? La réponse à 13h45.
Enfin, demain au travail. Alors Elisabeth, vous m'avez dit, surtout, tu ne me demandes pas qui va gagner Roland-Garros parce que je ne veux pas perdre. Mais quand même, qui va gagner Roland-Garros?
C'est vous qui le savez toujours, Emmanuel.
Bon, allez, on va dire Rafael Nadal. Comme ça, on est à peu près sûr.
Vive Rafa, oui, moi je suis pour Rafa.
Et bien, pourquoi je vous demande ça? Parce que chez Stiple, pour rassembler les salariés, mais ils organisent des pronostics au sein de l'entreprise et on leur passera un coup de fil vers 13h50.
Et c'est ça, la France bouge. Restez avec nous, nous sommes ensemble. Et en direct de Roland-Garros, et c'est parti jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Oh là, elle bouge, elle est bien là. Sous le soleil de Roland-Garros, le temps est idéal. Une petite brise qui fait qu'il ne fait pas trop chaud. Et notre grand témoin est justement l'un des acteurs de ce Roland-Garros.
Bonjour Patrick Houy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la marque Le Coq Sportif. Vous avez un superbe polo d'ailleurs, avec un très joli logo. Il est nouveau ce logo, non?
Il est nouveau depuis 4-5 ans quand même, ouais, mais celui-là est doré.
Donc, il est doré, voilà, il flash, hein, il est très très beau. 300 salariés au sein de Coq Sportif en France. Vous avez encore une usine en France, justement, à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Alors, vous habillez notamment Richard Gasquet et Lucas Pouille. Pourquoi, Patrick Houy, vous avez misé sur le tennis?
Le tennis, c'est un des grands sports stratégiques du Coq et c'est un des grands sports historiques aussi. Hein. C'est un sport dans lequel on a découvert au Coq Sportif en fait, l'approche des sports individuels. Parce qu'on ne le sait pas trop, mais le Coq, c'est une marque d'équipe. C'est ce qu'on véhicule beaucoup aujourd'hui. Et dans les années 70, on a sponsorisé deux ovnis. Yannick Noah, Arthur Ashe. Avant ça, on avait déjà une culture du tennis, mais c'est ce qui nous a fait prendre conscience que les joueurs de tennis avaient un particularisme très fort dans un sport qui était très apprécié et puis qui nous a amené progressivement à vouloir être ce qu'on était déjà, c'est-à-dire d'être dans le tennis, la marque du sport français, tout simplement.
Yannick Noah est encore aujourd'hui, on va dire, un de vos ambassadeurs. Vous nous diriez combien ça coûte d'habiller Lucas Pouille ou Richard Gasquet?
Malheureusement, je ne peux pas tout vous dire, donc je ne peux pas vous dire ce que ça coûte. Évidemment, aujourd'hui, il y a un équilibre. Nous, le prix est toujours important. Le sponsoring est un marché, évidemment. Par contre, ce qui compte, c'est qu'il y a une adéquation.
Et du coup, alors je vais poser ma question autrement. On revoit le prix à la baisse quand ils font des performances limitées, notamment sur un Roland-Garros?
Alors, on ne revoit pas les prix à la baisse. Ça ne se traduit pas comme ça, mais dans un contrat, effectivement, il y a à la fois des bonus. Et il y a des malus, mais les malus, ce n'est pas sur les tournois. Les malus, c'est en fin de saison, quand il y a une très grande contre-performance, et on a toujours le loisir de ne pas les appliquer.
Alors, vous l'avez dit, Patrick, oui, hein, vos ambassadeurs, c'est Yannick Noah, qui avait donc gagné hein, Roland-Garros en 1983. Il était habillé en coq sportif, mais vous avez aussi des jeunes qui sont beaucoup, beaucoup moins connus. C'est quoi les critères? Pourquoi vous choisissez l'un et pas l'autre?
Dans une plateforme de marque, il faut pouvoir avoir des mentors. Yannick en fait partie, on en a d'autres dans d'autres sports, Frédéric Michalak dans le rugby, c'est très important d'avoir ceux qui ont connu. Il faut avoir les pros actuels, les confirmés, et il faut avoir des jeunes pousses. Et si on n'a pas cette structure, il y a un moment ou un autre, on ne peut pas se renouveler. Donc pour nous, c'était indispensable d'investir dans la jeunesse.
Alors c'est qui? Pourquoi? Alors comment vous les choisissez?
On a des gens qui sont spécialistes et qui sont sur le terrain. On a des académies avec lesquelles on a des partenariats, la French Touch Academy par exemple. On est aussi partenaire du LPR ici. Entre autres, on est partenaire de Fête le Mur aussi. Donc on est impliqué finalement dans le tennis, pas que à travers les joueurs que l'on voit, qui sont les plus visibles, mais partout, dans toute la dimension.
Le tennis représente finalement une petite partie de votre activité quand on regarde votre chiffre d'affaires, mais il fait vraiment partie de l'essence de la marque, comme vous nous le disiez, Patrick Houilly. Est-ce qu'un événement comme Roland-Garros, ça dope les ventes ?
Bien sûr, ça dope les ventes, tant bien même on n'est pas le sponsor principal. C'est le tournoi de l'année pour une très grande majorité de fans de tennis, et pas que de fans de tennis d'ailleurs, autour de la planète. Donc évidemment que tout le business model, en fait, il est construit finalement pour arriver à être prêt à pouvoir servir les clients juste avant Roland-Garros et pour la période de terre battue.
Enfin, c'est le tournoi de l'année, mais finalement, le tennis, ça représente qu'une infime, une petite partie de votre activité. Mais ça fait partie tout de même de l'essence de votre marque.
Avec un ambassadeur comme Yannick et avec une victoire comme la sienne, c'est difficile de contourner en fait, un sport comme celui-là, même...
Ça va marquer toute l'histoire de votre marque, finalement, même si c'était en 1983.
C'est un sport, c'est un des grands sports traditionnels, hein, avec le foot, le rugby, le basket, ce genre de sport. Mais c'est un sport qui accompagnera toujours le coq et puis qui véhicule d'autres choses. Il véhicule une silhouette complète, c'est-à-dire qu'en général, on a tout un outfit très élégant. C'est le symbole de l'élégance, le tennis. C'est le symbole du sport où il faut trouver les ressources soi-même. Enfin, il y a beaucoup de qualités là-dedans.
Mais c'est vrai que vous êtes aujourd'hui une marque de sport. On ne le sait pas toujours. Hein. C'est vous qui faites le maillot de l'équipe de France de rugby aussi, si je ne dis pas d'annerie. C'est vous qui équipez, par exemple, en Ligue 1 Saint-Etienne, où vous aviez refait tout un maillot vintage, la grande période des Verts. C'est capital, justement, tous ces partenariats pour réinscrire le coq sportif, parce que disons-le franchement, il y a eu quand même plus qu'un sacré trou d'air.
Oui, il y a eu un sacré trou d'air. C'est fondamental en fait. Il y a une dizaine d'années, on a pris la décision de revenir finalement à nos origines. En réalité, on n'a rien inventé, on a juste refait et modernisé quelque chose qui était fait à l'époque du succès de la marque, c'est-à-dire de reconstruire les deux patrimoines qui nous manquaient, le patrimoine du savoir-faire, l'industrialisation en France et à proximité, et de l'autre côté, le patrimoine sportif. Et on a démarré avec le Tour de France et Saint-Etienne. Et effectivement, c'est ce qui nous a relancé et qui fait qu'aujourd'hui, on est là où on est, en tout cas.
Patrick Houilly, vous êtes le directeur de la marque, hein, le coq sportif. Vous êtes notre grand témoin du jour. Nous sommes en direct de Roland-Garros. Et vous nous accompagnez jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et là, au pied du Philippe Châtrier, entre la porte C22 et la porte C19, il est 13h17 et 57 secondes.
Et bien, dis donc, à suivre des vêtements de sport à base de fibres de bois. Oui, de bois. 100% made in France.
Oui, c'est ce que fait Sora Eyewear. Alors, pourquoi utiliser de la fibre de bois? On va poser la question dans un instant à la fondatrice. Allez, si on met de côté les équipes de double avec Elisabeth, on est les seuls Français en deuxième semaine de Roland-Garros. C'est déjà pas mal pour la France Bouche. Toujours en direct, justement, de ce formidable stade de Roland-Garros au pied du Châtrier. On parle de tennis, notamment avec notre grand témoin depuis le début de cette émission, Patrick Houilly. C'est le patron de la marque Le Coq Sportif.
Et quand on fait du sport, c'est important de se sentir bien dans des vêtements confortables, aérés. Et l'équipe de la France Bouche a déniché une marque de vêtements à base de fibres de bois. Bonjour Fabienne. Peu de temps.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on a découvert Sora Eyewear, c'est votre marque que vous avez fondée en 2019. Marque de vêtements de sport à base de fibres de bois. Vous avez 5 produits hommes, 5 produits femmes, des maillots, des shorts, des sweats, avec une gamme de prix située entre 69 et 119 euros. Alors d'abord, pourquoi la fibre de bois? Ça vous vient comment ça?
Je cherchais une matière qui puisse être portée au quotidien et aussi pour faire une activité sportive. Et la fibre de bois m'a semblé la plus naturelle et la plus percutante, en fait.
Vous la connaissiez ?
Eh ben non, au début.
Comment c'est venu à vous ?
Ça a été une longue recherche et je suis allée tout simplement à la recherche de fournisseurs auprès d'un gros salon qui se passe ici à Paris, Première Vision, pour aller justement chercher exactement la matière que je voulais, qui puisse être portée tout le temps.
Mais comment on en arrive à ça ? Quelles sont les particularités ? C'est pratique parce que je vais peut-être dire une erreur, mais ça retient bien la sueur quand on fait du tennis, par exemple.
C'est ça, exactement. Et du coup, il n'y a pas de mauvaise odeur. C'est vraiment doux contre la peau, c'est assez respirant, c'est vraiment intéressant pour une utilisation polyvalente.
Donc, une belle utilisation, ça permet de bien faire du sport finalement en se sentant à l'aise, sans avoir besoin de changer son t-shirt toutes les heures. Donc ça, c'est pas mal. Vous dites que c'est made in France, que c'est fabriqué en France, mais une partie de la matière première pour le bois vient d'Autriche. Alors, comment vous organisez votre logistique?
Tout à fait. J'ai décidé de travailler avec l'entreprise Lenzing, donc qui fabrique la fibre de bois de manière très vertueuse. Donc, eux sont en Autriche. Ils fabriquent le fil. Enfin, en tout cas, ils vont jusqu'à la base du fil. Ensuite, le fil va en Turquie, tout simplement, parce qu'en France, je n'ai pas réussi à trouver d'atelier de filature qui puisse me le faire en France. J'en fais un gros appel, d'ailleurs.
Oui, on va essayer d'en trouver ici. Alors, ouais, à la France, bouge, on trouve les solutions.
Voilà.
On va essayer.
Parce que vous l'envoyez en Turquie, je crois, pour qu'il soit tissé et coloré, parce que justement, voilà, on n'a pas ces techniques en France.
Hein. Exactement. C'est tissé et teinté en Turquie. J'achète le tissu directement là-bas et par contre, je fabrique tout ici, en Rhône-Alpes.
Donc, vous récupérez les tissus et après, direction Rhône-Alpes, dans votre atelier ou dans votre usine, pour fabriquer les modèles.
Exactement. Dans mon atelier, je ne suis pas encore à taille usine pour l'instant. Je suis encore à taille humaine et j'ai bien l'intention d'y rester.
Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, des sportifs vous ont fait confiance. Vous avez déjà, je crois, des partenariats, vous, avec des champions de rallye. Donc, on est plutôt dans la voiture. Il y a des partenariats qui sont en train de se finaliser, je crois, également avec des conducteurs de Paris-Dakar.
Effectivement, le fait que je puisse faire fabriquer en France et que les pilotes puissent aussi choisir un petit peu les couleurs des teams, ça les a un petit peu intrigués. Donc, Johan Bonato, cette année, triple champion de France de rallye, nous a fait complètement confiance pour qu'on puisse l'équiper. Et en effet, on va aller de plus en plus vers l'équipement sportif.
Alors, ce qui nous a intéressé aussi, Fabienne Petetin, donc fondatrice de cette marque de vêtements So Ridewear, c'est que vous, dans votre parcours, dans votre parcours entrepreneurial, c'est que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, c'est totalement dans l'air du temps, on en rencontre tous les jours dans la France Bouge. Auparavant, vous étiez assistante dentaire.
Oui.
Comment avez-vous sauté le pas? Parce qu'il y en a plein qui en rêvent, mais rares sont ceux qui le font.
Oui, sauter le pas et à 40 ans en plus.
Ouais. Donc, bah ça va, c'est jeune, 40 ans.
Mais il faut le faire quand même.
De vieillir quand même.
En effet. Non, mon patron est parti à la retraite. Je me suis dit que c'était moment de créer, un, mon emploi et deux, d'essayer de casser un petit peu les codes pour faire remettre un petit peu l'humain et le savoir-faire au cœur de tout.
Oui, mais comment on en vient à une marque de vêtements? C'est-à-dire que vous étiez assistante dentaire, vous auriez pu vous lancer dans les fauteuils de dentiste. Ou j'en sais rien moi, mais pourquoi vous êtes carrément allé vers totalement autre chose? En plus, le textile, ben c'est ultra concurrentiel.
Ouais, tout à fait, parce que je suis sportive à la base et que je trouvais pas de vêtements moi pour m'habiller.
Vous faites quoi comme sport?
VTT énormément, enfin du vélo de manière générale.
Et ce qu'on a trouvé aussi très intéressant avec Elisabeth, c'est toute l'éthique qu'il peut y avoir derrière. Puisque vous, ce que vous voulez, c'est certes, on achète un produit, mais on achète, comment je pourrais dire, une atmosphère. C'est-à-dire, par exemple, un univers, voilà, c'est mieux dit que moi. Sur chacun des t-shirts, il y a une petite étiquette derrière où on sait le temps qu'il a fallu pour produire. Parce que ce que vous dites, c'est bien d'acheter quelque chose, mais il faut qu'il y ait de la valeur au produit. C'est ça ce qui se passe.
Exactement, c'est ce que je dis toujours. Donc moi, je ne suis pas une marque de vêtements, je suis un fabricant de vêtements et je veux vraiment que l'humain revienne au centre de tout ça. Et il y a aussi une étiquette qui dit quelle couturière et son petit prénom. C'est souvent Fantine ou Sophie, mes couturières, donc qui mettent leur nom sur chaque vêtement.
Patrick Houilly, je rappelle que vous êtes le directeur de la marque Le Coq Sportif. Cette idée que l'on sache d'où ça vient, comment c'est produit, est-ce que c'est des choses également importantes du côté du Coq Sportif?
Totalement. Et
en même temps, si vous me dites non, ça va être un peu bizarre. Ma question était un peu facile.
Non, elle n'est pas facile parce que pour beaucoup de marques, ce n'est pas du tout évident. Et beaucoup de marques réfléchissent uniquement avec le produit fini. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez. Désolé, je n'ai pas retenu.
Fabienne Petetin.
Fabienne, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on se reconnaît dans ces problématiques-là sur les sourcings de matières et autres. Et donc, nous, notre réponse, ça a été quoi? Ça a été de se dire qu'à partir du moment où on se réinstallait, on se relançait, il fallait que ça se fasse de France. Donc on s'est réinstallé il y a une dizaine d'années en réouvrant en fait l'usine qui avait fermé en 1974 et en installant le premier atelier. Et comme pour vous, c'était un atelier au départ, ce n'était pas une usine. Et effectivement, la force de la marque et du projet...
Quelle est la part aujourd'hui de ce que vous vendez qui est encore produit en France? C'est limité, j'imagine, parce que c'est une petite usine.
Tout est limité en France aujourd'hui. Les capacités de production font que de toute façon, même si on voulait, on ne pourrait pas tout produire ici. Donc nous... On essaye d'y produire les produits qui ont du sens. Donc, on fait des capsules de produits qui sont made in France. On fait les produits iconiques, le maillot du 15 de France, le maillot de Saint-Étienne. Et on a de la production, on ne dit même pas, on le vend dans nos boutiques, que c'est produit en France, mais c'est tout de même produit là.
Il faut le dire quand même.
Oui, pas toujours.
Mais si, c'est important.
Enfin, alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas, l'envie... de faire croire à tout le monde que tout est fabriqué en France. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que nous, notre choix, c'est que toute la matière est tricotée et teinte en France avec des usines au tricotage France Teinture qui sont à proximité. Cette matière, parfois, on l'assemble dans nos usines ici en France, parfois, on l'assemble chez notre partenaire IKS, en l'occurrence au Maroc. Mmh. Et cette complexité dans le savoir-faire est clé, parce que le made in, c'est une des parts en fait, du produit. Mais il faut aller plus loin dans les marques, il faut aller chercher plus en profondeur.
Justement, pour faire attention à toute cette production, Fabienne Petetin, votre ambition, c'est d'ouvrir des boutiques, mais des boutiques ateliers, justement, pour montrer votre concept et quasiment faire du sur-mesure, hein, peut-être du stock à la demande, presque.
Tout à fait, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on peut encore se le permettre. On fait un petit peu de fabrication à la demande, on a très peu de stock, hein, pour éviter les surstocks et les invendus. Et en effet, le côté boutique-atelier, alors ça, je vous parle de ça dans quelques années, c'est pour que les gens se rendent compte que derrière chaque vêtement, il y a une personne, il y a une couturière, il y a une vendeuse.
Donc Fantine sera dans la boutique-atelier.
J'espère.
Et ben, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Ça s'appelle So Ridewear. Merci à vous, Fabienne Petetin, d'être venue.
Merci à vous.
Dans La France Bouge, en direct de Roland-Garros.
Et Patrick Houilly, le patron de la marque Le Coq Sportif, on vous garde encore un petit peu avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
13h28 sur Europe 1. À suivre, allez, tiens. On va remonter le temps et revivre cette journée historique du 5 juin 1983. Vous étiez où, vous, Emmanuel ?
J'avais 4 ans. Donc
Vous étiez quelque part.
J'étais sûrement avec mon papa et ma maman. Et sûrement que mon papa était en train d'applaudir Yannick Noah, bien évidemment. Ce moment d'anthologie, on s'est plongé dans les archives d'Europe 1 et c'est Dora Nana qui va nous y emmener dans un instant. Et comme chaque jour, on est ravis d'être avec vous en direct de 13h à 14h, toujours depuis ce stade de Roland-Garros. Si le tennis vous intéresse, sachez que Novak Djokovic est en train de débuter son match du jour. Et nous, on parle justement tennis, mais plus largement de sport, de marque de streetwear, avec Patrick Houilly, le patron de la marque Le Coq Sportif. Tiens, justement, depuis le début de l'émission, finalement, on parle que de vous à travers les sports. Mais vous êtes une marque de sport qui habille des sportifs, ou vous êtes une marque de streetwear qu'on porterait au même titre que Lacoste ou autre au quotidien, quand on se balade, quand on vit, quand on prend du plaisir?
Excellente question, je l'aime beaucoup. Nous, on est une marque de sport, évidemment, qui est détournée et qui est utilisée dans la rue, comme 80% des produits des vraies marques de sport. On est la marque de sport, la seule d'ailleurs, qui est multi-sport, puisqu'on est présent dans plus de 31 sports à travers la centaine d'athlètes qu'on sponsorise. Et à travers les 6 fédérations que l'on a directement sous contrat, et puis maintenant avec l'arrivée de Paris 2024. Donc,
on est une marque de sport. Quand vous dites que vous êtes une marque de sport, ce qui vous intéresse, donc, c'est d'abord de faire des vêtements techniques ou des vêtements jolis?
Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est pour tous les gens qui font du sport, on se rend bien compte qu'on n'a pas envie d'arriver au stade n'importe comment. Donc en fait, quand on fait du sport, quand on est dans une équipe, quand on est un athlète individuel, on a des tenues de présentation et on a des tenues de compétition, de performance, et on a des tenues d'entraînement. On est sur les 3 catégories, mais en fait, quand les joueurs de la Saint-Etienne arrivent au stade, ils ont un survêtement avec des très beaux sweats qu'ils portent également dans la rue, en fait. Donc, en fait, ce lien existe toujours. Donc, technique et streetwear, si on veut. Sportswear, nous, on appelle ça.
Mais vous jouez énormément sur l'aspect vintage. C'est un peu ce qu'on retient quand on pense au Coq Sportif. Enfin, nous, en tout cas, en préparant l'émission avec Emmanuel, c'est le mot qui nous est venu. Est-ce que c'est le cas et si oui, pourquoi?
Alors, c'est plus le cas depuis de nombreuses années maintenant. Pas parce qu'on veut le renier, ce passé. Au contraire, il est glorieux. On s'appuie totalement dessus. On va encore tout le temps chercher dans les catalogues des inspirations, hein, très honnêtement, parce qu'elles sont très riches. Par contre, on se modernise parce qu'il faut se moderniser. C'est indispensable. Et en fait, les capsules vintage que l'on peut faire sont plutôt des moments pour célébrer des moments de victoire ou des grands moments de la marque comme en 83. Mais sinon, on essaye de se projeter dans la modernité et d'être contemporain.
Alors justement, soyons contemporains. Les magasins ont rouvert maintenant depuis un petit peu plus de 15 jours. On recevait le patron de Gérard Darrel jeudi dernier qui nous disait « C'est reparti très très fort. Au mois de mai, en 15 jours, on a fait le mois de 2019. » Est-ce que c'est votre cas ?
C'est le cas aussi pour nous avant même que ça réouvre. En fait, on s'est rendu compte qu'on a fait exploser nos ventes. On a d'ailleurs sorti un petit communiqué parce qu'on a été très fiers et très heureux sur le mois d'avril.
Faire exploser les ventes, ça veut dire quoi par rapport à d'habitude?
Ça veut dire du plus 39%, plus 82% jusqu'au mois d'avril. Donc c'est vraiment énorme. Alors, ce n'est pas sur tous les réseaux systématiquement, ce qui, bien que c'est toujours difficile hein, d'absorber les périodes de confinement, mais néanmoins, c'est des signes qui sont extrêmement positifs et qui nous encouragent à continuer.
Donc, des signes encourageants, des signes positifs. Est-ce que vous avez eu de nouveaux clients? Tiens, d'ailleurs, qui est le client type du Coq Sportif? Qui vient chez vous? C'est des sportifs?
C'est une bonne question aussi. C'est une marque familiale, par exemple.
Cette chanson, on va vous garder, parce qu'à chaque fois, vous dites une bonne question.
Mais oui, j'aime bien quand il y a des bonnes questions, c'est important. C'est une marque qui est familiale. Donc aujourd'hui, je dirais que le client lambda, il a peut-être entre 30 et 35 ans et 40 ans, mais finalement, on touche les plus jeunes. On a une ligne Kids aujourd'hui dans nos points de vente. Et on touche des gens qui sont plus âgés. Et en ce sens, pour nous, c'est très important de rester sur cette possibilité-là, de toucher finalement à un moment ou à un autre la famille. C'est quelque chose qui est clé.
Est-ce que la fermeture de ces magasins, c'est quand vous dites que les ventes ont bondi, par exemple, là, jusqu'en mars et jusqu'en avril, ça veut dire que vous avez accéléré comme jamais sur le numérique ?
Entre autres, bien entendu, il a fallu réagir. Je pense qu'il y a aussi un effet mécanique. Les gens se reroutent, on va dire, assez naturellement vers le numérique. Mais nous, on est resté actifs et on est resté visibles. C'est-à-dire que cette année, le sport ne s'est pas arrêté. Et tous les partenariats que l'on évoquait tout à l'heure, la marque a continué à être visible, on a continué à être actif, on a fait tourner aussi les usines, on a raconté des histoires, on a trouvé des nouveaux sujets, en fait, d'expression.
En ce moment, dans la France Bouge, on reçoit souvent des patronnes ou des patrons qui sont en train de se lancer sur le marché de la seconde main, parce qu'il y a un marché, il y a des Vinted, il y a des eBay, il y a des bons coins qui récupèrent les vêtements. Est-ce que vous, au sein de Coq Sportif, Patrick Houy, vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que c'est un marché que vous regardez, ce marché de la seconde main?
On est obligé de se poser la question, et au-delà même du marché de la seconde main, c'est le marché de la surconsommation, en fait. C'est le sujet, il est là. Nous, on a trouvé la réponse suivante, c'est plutôt dans le modèle économique. Donc aujourd'hui, avec les enseignes qui sont des grosses enseignes, qui sont des enseignes partenaires, Intersport, GoSport, Sport 2000, toutes ces grandes chaînes-là, on a des shop-in-shop, des corners, si vous voulez, qui sont installés. En fait, notre mode de fonctionnement, c'est qu'on ne surcharge pas les livraisons. On va chercher, en fait, à faire une implantation qui soit raisonnable. Ça peut être 50%, 60%, 70% des besoins annuels. Et en fait, il fonctionne par réassort. Et de par notre modèle à maîtriser la production de nos matières premières, comme je l'expliquais avant, qui sont à proximité, qui sont ici en France, et à stabiliser aussi les matières qu'on utilise pour ne pas en changer tout le temps, pour ne pas avoir des stocks tout le temps, etc. En fait, on reproduit ce qui est vendu. Et c'est ça notre contribution à limiter finalement le marché de la seconde main. Pas qu'on veuille le limiter, il est très important, mais au moins à faire que les produits soient d'abord faits qualitativement pour durer, et ensuite pas dans des quantités trop importantes pour faire que le textile soit du jetable, parce que ce n'est pas du jetable. Ça demande énormément de travail et beaucoup de gens derrière.
Le Coq Sportif, c'est une marque très française, vous jouez beaucoup sur le côté tricolore. Comment on l'internationalise? Comment on devient une grande marque internationale?
J'ai envie de dire qu'on a, on a de la chance, parce que tout ce qui touche à la mode et qui est français, je pense, part quand même avec un petit avantage à l'étranger, il faut bien se le dire quand même. Donc justement, on ne change rien. On essaye d'être très fort sur son marché domestique, on essaye d'être soi-même. Notre logo, il est bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, on en est fiers. C'est la seule marque dont le logo est l'emblème national. Ça, c'est absolument unique. En tout cas, moi, j'en suis très, très fier. Et on va s'internationaliser exactement de cette manière et avec les valeurs, que l'on veut établir en local.
Alors, chaque jour dans La France Bouge, Patrick Houy, on s'arrête quelques minutes sur une entreprise, un lieu, un savoir-faire, un endroit unique en France ou à un moment qui a traversé des générations. Aujourd'hui, on va revenir à un moment. On va revenir au 5 juin 1983. C'était un dimanche. C'est le jour où Yannick Noah a remporté Roland Garros.
Et il paraît qu'elle a un coup droit dévastateur. C'est notre tennisman à nous, Dora Nana, qui s'est plongé dans les archives d'Europe 1.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Il a gagné ! En quel moment ? Yannick qui est à genoux au centre du court ! Il a 23 ans, Yannick Noah !
Au commentaire, le journaliste Jean-René Godard, un moment gravé dans la mémoire de millions de Français. On est le dimanche 5 juin 1983. La veille du match, les places se vendent au marché noir, plus de 4000 francs, un peu plus de 600 euros aujourd'hui. Et ils sont plus de 11 millions de téléspectateurs devant leur télé ce dimanche, sous une chaleur étouffante, après 2h24 de jeu. En 3-7, Yannick Noah bat le Suédois Mats Wilander. Et il fait chavirer de bonheur la France entière. Un moment historique. Depuis 37 ans, aucun Français n'avait remporté le tournoi de Roland-Garros. Le dernier, c'était Marcel Bernard en 1946. Alors la France entière compte sur lui.
Et Yannick Noah, finalement, avait toute la pression sur les épaules. Il avait, depuis le début de ce tournoi, un pays entier qui était derrière lui, qui l'encourageait, qui voulait qu'il gagne. Et finalement, il était devenu le favori, parce que ce matin, tout le monde et les auditeurs d'Europe 1 le donnaient vainqueur à 85%. Et c'est difficile lorsqu'on atteint pour la première fois, à 23 ans, une finale d'un tournoi du Grand Chelem contre le tenant du titre.
Comme le rappelle Patrice Dominguez, le consultant tennis d'Europe 1 de l'époque, il n'a que 23 ans, Yannick Noah. Et pourtant, à quelques jours du match, il a un moral d'acier.
Je veux gagner, je veux dire, je veux pas arriver en finale, je veux gagner. Et mon rêve, c'est de gagner Roland-Garros. Et j'ai tout fait pour arriver à Roland-Garros dans les meilleures conditions pour gagner. Et maintenant, ce serait un peu idiot de m'arrêter là. Donc dimanche, je mettrai tout.
Et en effet, il va tout donner face au tenant du titre, Mats Wilander. Jusqu'au tie-break de la troisième manche, à la deuxième balle de match, c'est la bonne. Il en tombera à genoux sur la terre battue avant de sauter dans les bras de son père Zachary. Beaucoup d'émotion, car cette victoire, c'est celle d'un clan.
J'ai pas gagné tout seul et j'ai gagné avec, parce que j'ai été aidé par des gens qui étaient proches de moi. Et mon père, ma famille bien sûr, Patrice Agelauer bien entendu, et je pense qu'ils font partie de cette victoire. Ils m'ont aidé, ils ont travaillé avec moi, ils ont souffert avec moi. Mon père à chaque Roland-Garros, à chaque grande occasion, repart au Cameroun avec plein de cheveux blancs et là j'espère que ça ira. J'avais toujours rêvé de cette victoire, maintenant c'est fait. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus de travail, une vie qui est complètement changée, mais je veux dire qu'en réussite ça vaut vraiment le coup. Je viens de gagner Roland-Garros, tant mieux, maintenant je pars en vacances.
La France avait patienté 37 ans pour voir à nouveau un Français gagner Roland-Garros. Aujourd'hui, 38 ans après le triomphe de Yannick Noah, elle attend toujours celui ou celle qui soulèvera de nouveau la coupe.
Ah bah selon, on en a eu quand même quelques-unes. On a eu Marie Pierce qu'on avait la chance d'entendre ce week-end au micro de Pascal Clark en balade avec. On a pu aller avec elle comme ça dans tout ce Roland-Garros. Mais c'est vrai qu'on attend des victoires françaises. Là. Ouais. Elisabeth disait, j'ai des frissons
à entendre. Ça donne des frissons d'entendre ces archives d'Europe 1 qui a retrouvé Dora Nana pour se souvenir de ce dimanche 5 juin 1983. Et vous restez avec nous d'ailleurs, hein, Patrick. Oui, on va continuer à parler de tennis. Là, on va vous demander, tiens, c'est votre statut, votre expérience de patron dont on va avoir besoin parce que vous allez écouter le pitch du jour des trophées Europe 1, la France bouge.
Europe 1. Et il est 13h42.
Le pitch du jour sélectionné avec la CCI, ça s'appelle Air Pur.
Oui, ils ont créé des masques destinés aux sportifs et on va découvrir tout cela dans un instant. C'est la suite de La France bouge et nous sommes toujours en direct de Roland-Garros. C'est le moment de notre pitch du jour. Il va falloir convaincre notamment notre grand témoin Patrick Houilly, le patron de la marque Le Coq Sportif, et Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Et un projet tout neuf. Hein. Ce projet, ce sont des masques. Ils sont très beaux, on vient de les voir, et ils viennent d'être commercialisés. Hein. C'était il y a à peine une semaine. Mathieu Lécuyer, bonjour.
Bonjour.
Vous allez avoir 31 ans dans pas longtemps. Vous avez créé Air Pur. Alors, votre entreprise Air Pur, elle existe depuis 2016. Ce sont des masques anti-pollution pour les deux roues, les cyclistes. Mais si vous êtes aujourd'hui en direct dans la France bouge, c'est parce que vous venez de lancer Nano Sport. Ce sont des marques destinées au sport, avec notamment un masque hein, que vous nous avez apporté, que vous allez nous décrire. Vous allez nous décrire justement pendant votre pitch. C'est parti. Vous
Exactement.
Avez. Une minute.
Alors, Air Pur, c'est une société qui a été créée en 2015, comme vous le dites. Aujourd'hui, on est spécialisé dans la qualité de l'air, la pollution de l'air même. Aujourd'hui, on a développé des technologies qui sont fabriquées en France qui permettent de filtrer les particules très, très fines. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes exposé à une qualité de l'air mauvaise, les petites particules rentrent dans votre organisme et font des dégâts considérables dans le sang. Et aujourd'hui, c'est irréversible. On ne peut absolument plus les ressortir de votre corps. Donc nous, on avait identifié cette problématique à l'époque et il n'y avait rien sur le marché. Donc on a développé des solutions qui sont uniques au monde, qui s'appellent nanofiltration, qui sont des technologies brevetées aujourd'hui et qui sont les seules à pouvoir filtrer ces particules-là. On a commencé avec des masques pour le vélo, pour la moto, pour les sportifs. Et aujourd'hui, on sort un tout nouveau masque pour les sportifs qui a eu 1 an et demi de développement pour pouvoir tout simplement avoir la facilité de respirer à travers tout en ayant une performance hors du commun pour filtrer ces particules. C'est là où réside la vraie technologie et la difficulté de créer un produit comme ça, c'est de réussir tout simplement d'allier performance de filtration et respirabilité. Et aujourd'hui, on est les seuls à le faire.
Alors, vous êtes les seuls à le faire. Vous n'avez pas donné le prix, si je ne dis pas de bêtises.
C'est votre boulot.
C'est mon boulot. Tout le monde me le laisse. En précommande, c'est 79€ au lieu de 99€. Il est fabriqué en France.
Exactement.
Et quand vous dites, ça fait 1 an et demi qu'on le développe. C'est-à-dire que vous êtes lancé au tout début du Covid ou vous l'auriez lancé sans le Covid
parce on l'a lancé avant. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui...
Une sacrée chance du timing, vous, quand même.
Et... Malheureusement, tout le monde dit qu'on a inventé le Covid, mais je vous assure, je n'y suis pour rien. On avait commencé avant, et comme vous l'avez dit au début, notre spécialisation, elle réside dans la qualité de l'air, qui est encore plus nocif et qui tue d'ailleurs plus de personnes que le
Covid. Mais oui, vous nous donniez l'exemple tout à l'heure en antenne, une personne qui fait un jogging près du périphérique, par exemple, à Paris.
C'est une folie.
C'est une folie. Donc votre masque, à ce moment-là, devient indispensable.
Exactement. Aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui ont été prouvées qu'il y a 40% de chances en plus de développer des maladies cardiovasculaires si vous faites du sport dans une grande ville que si vous n'en faites pas. Aujourd'hui, c'est une information qui est complètement folle. On vous dit, si vous faites du sport, attention, ça va vous rendre malade que si vous n'en faites pas. Donc aujourd'hui, dans les grandes villes, attention à la qualité de l'air, attention là où vous pratiquez le sport ou si vous le pratiquez dans un endroit qui est mauvais et pollué, protégez-vous.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel.
Nathalie Carré, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors Nathalie, ce masque qui filtre les particules, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les forces et les faiblesses de Airpure?
Ben voilà, mais à quel sens vouer, ma bonne dame? On sait que l'air est plus pollué dans nos intérieurs qu'à l'extérieur, alors on sort pour faire du sport, et puis, c'est pas bon non plus. En tout cas, il y a 15 millions de Français qui font de la course ou du vélo en France, et effectivement, il y a énormément d'articles sur le sujet du risque de faire du sport dans une ville polluée. Et puis, point fort, bravo pour toutes les explications sur le site. On sait tout sur les produits, sur la marque, sur leur efficacité, même en fonction de la forme de notre visage. Donc, c'est vraiment très rassurant pour acheter. Puis, bravo pour l'application qui permet de suivre la pollution de l'air et surtout l'usure du filtre de votre masque. Puis, le prix qui est très abordable, d'autant qu'il s'agit de notre santé. Alors, je n'ai pas de point amélioré, plutôt une suggestion. Je n'ai pas vu d'offre pour les entreprises. Or, il y a peut-être des packs à faire. Donc, évidemment, on pense aux entreprises de livraison de vélos qui sont très concernées. On pense aussi aux vendeurs de vélos. Ça ne serait pas compliqué de rajouter 80 euros plus pour acheter votre masque en plus de son vélo. Et puis aussi, toutes les entreprises qui privilégient la mobilité douce pour motiver leurs salariés à se déplacer en vélo. Comme en plus, votre masque protège des virus, ça ferait d'une pierre deux coups pour tous les salariés.
Elle est magique.
C'est une excellente question et j'allais en venir puisque c'est un service qu'on a lancé depuis le début de l'année. En effet, vous pouvez comprendre qu'en 2020, on a été très pris par le Covid puisqu'en plus de notre activité classique, on a dû développer des dispositifs médicaux pour équiper le personnel soignant et les personnes qui étaient le plus en besoin. On a essayé de se staffer et surtout, on a évolué industriellement parlant. C'était la grosse mission de 2020. Aujourd'hui, en 2021, on lance en effet des solutions pour venir en aide aux entreprises qui ont des employés qui sont les plus exposés, dans la mobilité et aussi disposition de ces produits auprès des CSE.
Et on les lave comment, ces masques?
Alors aujourd'hui, c'est très simple. Vous avez un filtre qui est interchangeable à l'intérieur.
D'accord, donc c'est le filtre qu'on lave à chaque fois qu'on fait du sport?
Non, le filtre, lui, est jetable. Malheureusement, il ne peut pas se laver. C'est des matériaux très technologiques. Et malheureusement, vous ne pouvez pas les remplacer, mais vous pouvez nous les retourner et on s'occupera de leur donner une seconde vie dans des matériaux d'isolation.
Patrick Houilly, je rappelle que vous êtes le directeur de la marque Le Coq Sportif. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que à la fois c'est triste d'en arriver là, du coup, de se dire qu'il faut un masque pour aller faire du sport, et en même temps l'opportunité de marché, elle est évidente. Donc je pense que le positionnement et le projet est bon. Moi-même j'ai eu un masque, hein, je suis à vélo régulièrement à Paris, et c'est vrai qu'il y a des moments où on a la gorge qui gratouille un petit peu, et le sujet des particules fines dont tout le monde parle, le sujet est légitime, mais c'est vrai qu'il y a une petite psychologie sur l'idée d'être en train de faire du sport avec un masque. C'est pas forcément le rêve qu'on a, mais monsieur offre une solution pour qu'on puisse le faire le plus longtemps possible. Donc,
Mathieu, vous avez besoin de quoi en ce moment? De fonds?
Alors aujourd'hui, on est en hypercroissance. On était avant le Covid. Ça s'est accéléré aussi sur cette début d'année. On a ouvert un bureau l'année dernière à Hong Kong, puisqu'on a des clients asiatiques qui sont extrêmement friands de nos solutions qui sont aujourd'hui révolutionnaires. Et on lève des fonds entre 8 et 15 millions d'euros pour nous permettre d'accélérer cette croissance et d'accompagner notre entreprise à l'international avec des produits qui sont faits chez nous. Donc encore une fois, c'est le monde à l'envers et ça nous fait plaisir de pouvoir se positionner là-dessus.
Et c'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Super croissance, besoin de fonds, ça marche très fort. Ça s'appelle Airpure. Merci à vous Mathieu Lécuyer d'être venu nous présenter votre projet dans la France Bouge.
Et merci à vous Nathalie Carré. On vous dit à demain si vous aussi vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Patrick Houilly, vous êtes le directeur de la marque Le Coq Sportif, tout va bien?
Tout va très bien.
Eh bien, on reste encore ensemble un petit peu, suite et fin de votre émission.
Europe 1.
Et il est 13h52.
À suivre demain au travail, on va passer un coup de fil chez Stiple.
Oui, cette saison, pour rassembler les salariés, cette entreprise organise des pronostics. On va voir tout ça.
Sportif.
Ah, heureusement. Et nous sommes avec Patrick Houy, le directeur de la marque Lecoq Sportif, qui est notre grand témoin aujourd'hui jusqu'à 14h dans cette émission de La France Bouge en direct de Roland-Garros.
Et notre monde change, nos entreprises aussi. Bonjour Jean-Baptiste de Belair.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Vous êtes le dirigeant de Stiple, c'est une entreprise qui fournit des solutions de communication entre collègues, environ une soixantaine de collaborateurs, vous êtes situé à Rennes. Et si vous êtes en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous organisez régulièrement des tournois de pronostics au sein de l'entreprise, de pronostics sportifs, j'imagine. Vous le faites pour Roland-Garros ?
Alors non, pas pour Roland-Garros.
Ah bah alors ?
C'est un petit peu moins fédérateur que les grandes compétitions, on est surtout sur le foot et le rugby, il faut dire.
Alors justement, je crois que tout le monde est mobilisé pour l'Euro là qui va débuter et qu'on pourra suivre également en direct sur Europe 1. Ça va être le grand temps fort.
Ah oui, là, bah on l'attend parce que c'est vrai que ça coïncide aussi avec quelque chose qui est le retour au bureau des équipes parce qu'on a connu, nous, beaucoup de télétravail. Et là, on a assoupli un petit peu ce télétravail. Et donc l'Euro qui arrive fin de semaine, c'est l'occasion de redynamiser et d'animer les locaux et puis de mettre en place des petits pronostics et sympas pour créer du lien.
Alors justement, vous dites créer du lien, ça fait quoi au sein des salariés, au sein de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience ?
Alors nous, déjà, on l'a mis sur toutes les grandes compétitions des années précédentes, puisqu'on on crée les modules pour nos clients, donc c'est vrai qu'on est les premiers testeurs, donc Coupe du Monde féminine, Coupe du Monde de rugby, et en fait, ce qui est fort, c'est de voir cette petite... l'animation qui est créée à la machine à café, qui est créée lundi matin, qui est créée le lendemain des matchs. Quand on suit les classements, quand on voit les collègues qui ont les bons résultats...
Est-ce qu'il y a un classement individuel, il y a un classement collectif, et qu'est-ce qu'on gagne au bout du bout ?
Alors effectivement, donc il y a un classement individuel. Nous, c'est surtout celui-là sur lequel on va mettre en place des choses. Il y en a un autre qui est collectif aussi en fonction de l'organigramme. Et nous, par exemple, alors après, nos clients, eux, il y a des télés, des iPhones qui sont à gagner. Et nous, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu original, c'est que le meilleur pronostiqueur fait gagner à toute son équipe une activité de son choix dans la limite d'un budget. Donc, il y en a qui disent, qu'ils vont partir faire un restaurant, d'autres vont faire du paintball. Et c'est un petit peu cette notion de se challenger ensemble et quand même d'être fédéré en équipe.
Fédéré en équipe. Merci à vous, Jean-Baptiste de Belair. Vous êtes le dirigeant de Stiple. Patrick Houy, vous, au Coq Sportif, vous faites aussi des paris comme ça, des pronostics pour fédérer les salariés ? Ça vous arrive ?
Ça se fait dans les équipes parce que c'est des choses qui se font aussi dans les différents départements. Mais sinon, on organise régulièrement des projections, des matchs importants, voire même des documentaires.
Pour l'Euro, là aussi, vous êtes organisé du coup ?
Pour l'Euro, ça va se faire un petit peu comme ça, en fonction de qui sera présent au bureau.
Et c'est vrai que ça fédère les salariés, ça fait du bien à tout le monde et encore plus cette année, j'imagine.
Et ce qu'on aime, nous, c'est amener les sportifs et les faire rencontrer aussi les équipes. C'est ça qui est important parce que sinon...
Les tennismen français, ils ont du temps, vous pouvez y aller.
On les aime quand même.
Bien sûr qu'on les aime et qu'on les soutient. Merci à vous, Patrick Houy. Vous êtes le directeur de la marque Lecoq Sportif. Merci d'avoir été avec nous en direct de Roland-Garros dans La France Bouge.
Et demain, on sera également en direct de Roland-Garros. Soyez au rendez-vous avec une émission spéciale reprise d'entreprise. Comment ça se passe ? Quel est le projet derrière ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on change complètement de vie ? Et vous allez voir, on va avoir trois parcours très différents, mais très
passionnant. À demain. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat.